Ensemble, colonisons.
L'amour.
La tolérance.
La bienveillance.
Radio Esperanza.
Bien bonjour, nous nous retrouvons sur Radio Esperanza que vous regardez, enfin plutôt que vous écoutez sur nos réseaux sociaux ou si vous êtes définitivement à Floref sur le 106.2. Nous accueillons aujourd'hui Isabelle qui représente une SBL qui sera sur le site d'Esperanza, plus précisément au village des possibles. Et pour m'accompagner, j'ai en face de moi Sarah. Bonjour Sarah.
Bonjour. Et bonjour encore, bonjour Isabelle.
Bonjour.
Eh bien, pour commencer, Isabelle, qui es-tu? Qui représentes-tu?
Alors, moi, je suis médecin généraliste dans une maison médicale à Bruxelles, à Molenbeek. Et je fais aussi partie de l'ASBL Constat. J'ai participé à la fondation de cette ASBL et j'y travaille depuis 2009.
Et tu peux nous raconter un peu à quoi s'agit de Constat?
Alors, Constat, c'est une association qui regroupe principalement des médecins généralistes dans tout le pays. On est une vingtaine de médecins. On a aussi un médiateur culturel qui est Oumar et qui participe aussi au village des possibles pour mémoire coloniale. On a une psychologue et on a une assistante administrative, un comptable. Et donc le but de l'association est de rédiger des rapports médicaux circonstanciés pour des personnes qui sont en demande d'asile et qui ont été victimes de torture dans leur pays d'origine et qui ont des séquelles physiques de leur torture et qui ont besoin d'un rapport pour pouvoir les aider dans leur procédure d'asile.
Une forme de témoignage médical, du coup.
Oui.
Ou, si on peut dire ça.
C'est ça, pour essayer de donner un élément de preuve comme quoi ces personnes ont réellement vécu ce qu'elles disent avoir vécu.
Je suis juste un peu à choc parce que d'entendre que ça arrive toujours aujourd'hui. Des ces genres de torture, mais c'est vrai, il y a des pays où on ne sait pas que ça arrive. Et cette personne se trouve ici en train de demander pour une nouvelle vie. Donc c'est bien, cette association, c'est super intéressante. Et donc, comment vous faites pour vous faire un peu voir par rapport au gouvernement aussi un lutte contre le colonialisme, et parce que vous participez directement en aidant des personnes qui viennent des autres pays. Donc comment les gouvernements vous aident aussi, les gouvernements belges?
On n'est absolument pas aidé par le gouvernement belge. Donc au départ, on était totalement bénévole et puis on a eu un subside des Nations Unies qu'on a toujours, c'est notre principal subside. On a aussi un subside d'une association qui s'appelle Vivre Ensemble. On a des dons. Et on a aussi un peu d'argent, des réquisitoires, des gens qui viennent nous consulter. Mais on peut dire qu'on est à 2/3 bénévoles dans cette association. Et on a parfois aussi un petit subside, Roi Baudouin ou quelque chose comme ça. C'est tout. Donc on n'est pas reconnu par le gouvernement.
Conclusion d'associations qui font ce genre d'activisme. Et du coup, pour faire l'éducation aux gens, je trouve, pour vous montrer aux gens que vous existez, qu'est-ce que c'est vos actions au quotidien?
Mais on est pas mal connus dans le milieu, que ce soit par les avocats, par les centres qui hébergent les demandeurs d'asile, par les hébergeurs, les psychologues, les centres de santé mentale. Et donc, on est, à la limite, on est trop connus parce qu'on a trop de demandes. On a une liste d'attente qui est maintenant de 5 mois. Il y a eu une période, il y a quelques années, où on avait 1 an et demi de liste d'attente. C'était impossible. Et donc ça, c'est parce qu'on n'est pas assez nombreux pour faire ce type de travail.
Et comment on pourrait faire au quotidien, les gens comme moi, qui je ne suis pas ni médecin ni psychologue, comment je peux faire pour aider un petit peu? Par exemple, si je voudrais, je ne sais pas, vous aider un jour, venir comme bénévole, est-ce que c'est possible aussi pour les gens de participer?
Oui, c'est possible de participer, mais peut-être que la chose la plus importante, c'est de nous aider à recruter des médecins. Donc, si tu entends autour de toi, si tu connais des médecins, toujours parler de ce type de travail. Essayez aussi un peu de le démystifier parce que ça fait peur. Et donc, c'est pas si difficile que ça. Voilà, on donne des formations régulièrement aux jeunes médecins.
Et ça peut se faire de partout de la Belgique?
Oui, on a des médecins. Pour le moment, on a des médecins wallonniers à Bruxelles. Alors, il y a un médecin qui forme les médecins en Flandre, mais qui ne fait plus partie pour le moment de Constat. Voilà. Donc,
Et précisément à Esperanza, quand les gens vont aller vous voir dans le village de Possible, à quoi on doit s'attendre ?
L'année passée, on y était déjà. On avait un peu squatté le stand de mémoire coloniale. Et donc, on a eu des médecins qui sont venus nous poser des questions. On a pu aussi rencontrer des personnes, en fait, avec qui on correspondait par mail et qui travaillaient dans les centres pour demandeurs d'asile. Donc, c'est toujours chouette de mettre un visage sur une personne et donc un peu mieux expliquer notre travail, qu'eux nous expliquent un peu mieux leur travail. Donc, j'ai trouvé que c'était des rencontres très enrichissantes. Et voilà, j'espère que cette année, ça va être encore mieux. On va être beaucoup plus nombreux de Constat à participer au Village des Possibles. On va être une dizaine, je pense. Et voilà.
Quand tu nous parlais de liste d'attente tout à l'heure, tous les dossiers sont pris en compte, ou alors il y a malheureusement une certaine forme de sélection, entre guillemets?
Alors en fait, quand les gens nous adressent une demande, on va d'abord voir si elle correspond à nos critères. Un de nos critères, c'est qu'il faut des séquelles physiques. Malheureusement, avant, on prenait en charge aussi des gens qui n'avaient que des séquelles psychologiques, mais il y avait trop de demandes, c'était pas possible. Et comme on est médecin généraliste, on a décidé de ne se limiter que aux gens qui ont des séquelles physiques. Donc, quand les gens qui n'ont pas de séquelles physiques nous adressent une demande, on essaye de les réorienter vers des psychologues pour avoir aussi un bon rapport. Maintenant, si la demande correspond à nos critères, on va demander une série de documents. Et il faut que la personne qui demande, que ce soit l'avocat, l'assistant social, nous fournisse ces documents. Ça sera le récit de la personne, ça sera un peu de nous décrire si cette personne a des cicatrices. Voilà, une série de documents. Et puis, une fois que les documents sont envoyés, la personne est mise en liste d'attente.
Parce que tu nous parlais tout à l'heure de maisons médicales. Et généralement, dans les maisons médicales, je pense qu'il y a un peu toutes les formes de spécialités.
Non, une maison médicale, c'est de la première ligne, en fait. Donc, c'est médecin généraliste. Et alors, en général, dans une maison médicale, tu as des kinés ou infirmières, accueillants. Mais donc, ce n'est pas la maison médicale qui est Constat. Donc, il y a deux choses différentes. Moi, je suis médecin généraliste, médecin de famille. Ça, c'est mon travail principal en maison médicale. Et à côté de ça, je fais Constat.
Donc, il n'y a pas de lien, évident, entre les deux.
Le lieu. Ça se trouve dans nos locaux de la maison médicale, mais le centre se trouve là. Mais par contre, les médecins qui... Il y a un médecin à Liège, elle fait les expertises dans son propre cabinet, etc. Okay,
donc ce n'est pas une obligation d'être médecin en maison médicale pour faire...
Non, pas du tout, pas du tout. On a des médecins retraités aussi. On a des médecins qui ont... On a eu un médecin qui travaillait dans une mutuelle. Non, on ne doit pas être médecin en maison médicale.
Et pour toi, donc, le thème de cette année, donc, tu nous parlais que vous étiez présent l'année passée à Esperanza, le thème de cette année qui est colonisation et impérialisme européen, qu'est-ce que ce thème t'invoque via ton...
Par rapport à Constat, ben parce qu'évidemment les gens nous racontent leur histoire, pourquoi ils ont été torturés, pourquoi ils ont été persécutés, et donc ça a la plupart du temps un rapport avec le colonialisme.
Et la plupart des temps, c'est des personnes autochtones de ces pays,
oui,
qui ont été torturées pour des raisons politiques.
Alors, il y a des raisons politiques, il y a des raisons religieuses, il y a des raisons ethniques, il y a des raisons d'orientation sexuelle, il y a des raisons, par exemple, des mariages forcés, de l'esclavagisme, des enfants qui ont été maltraités dans certains internats. Il y a vraiment beaucoup de raisons possibles, en fait. Et l'ONU ne nous subsidie que pour des cas politiques. Pour le reste des cas, on n'a pas, on a les subsides de vivre ensemble et on n'a pas de subsides des Nations Unies.
Oui, j'ai vu dans leur dernier rapport des Nations Unies, ils ont parlé du néocolonialisme et comment ça influence notre vie quotidienne. J'avais parlé tantôt un petit peu parce qu'on le voit tous les jours avec le racisme et on le voit tous les jours avec les personnes d'autres religions ou d'autres origines, comment elles sont traitées différemment parfois. Et donc, est-ce que ça, c'est le cas pour vous? Donc, tu dis que la ONU vous subside seulement pour les gens qui vient par des raisons politiques. Et donc, comment faire pour les autres personnes?
on se débrouille avec les subsides, les autres subsides qu'on a. Et je t'ai dit, il y a une partie qui est bénévole du travail qu'on fait.
Et à quel point, ou quel pourcentage, c'est donc des personnes qui viennent par des raisons politiques et non politiques?
Tu me poses une colle, je ne sais plus. En tout cas...
Est-ce que vous avez un quota?
Peut-être moitié. On n'a aucun quota, mais peut-être c'est moitié-moitié. Mais je te dis peut-être une bêtise, je ne sais plus.
Oui,
c'est pas moi qui m'occupe des statistiques. Mais comme ça, vu de nez, peut-être moitié-moitié, oui.
Et pendant l'année, vous avez beaucoup de demandes, hein? Tu as peut-être des chiffres pour...
Je pense qu'on doit rédiger une cinquantaine de rapports, oui, sur une année.
Sur une année.
Tous ensemble, oui.
Et on a 5 mois d'attente. Alors,
oui, pour le moment.
Les personnes qui sont en train de demander l'asile, qui sont déjà passées un parcours assez difficile, doivent attendre encore un petit peu pour pouvoir avoir ces rapports.
Oui. Et le rapport peut intervenir aussi à n'importe quel stade de leur procédure. Donc on reçoit aussi bien des gens qui sont tout au début, qui n'ont pas encore passé leur interview, que des gens qui ont été déboutés 4 ou 5 fois et qui vont utiliser notre rapport pour pouvoir introduire une nouvelle demande d'asile. Et donc, on connaît assez bien aussi la façon, on connaît même très bien la façon dont se passe cette procédure d'asile, dont se passent les interviews au CGRA, parce que les gens nous racontent la façon dont ils vivent ça. Et c'est aussi de ça qu'on a envie de témoigner à Esperanza. C'est-à-dire que ces interviews ne sont pas du tout adaptées à des personnes qui sont fortement traumatisées.
Pourquoi? Pour quelles raisons?
Parce que les gens qui sont traumatisés, la plupart du temps, ne savent pas répondre à une interview d'une demi-journée sur des choses très très précises. Et donc souvent, ils se font refuser la protection internationale parce qu'on dit qu'ils sont incohérents, parce qu'on dit qu'ils mentent. Alors qu'en fait, c'est simplement parce qu'ils sont trop traumatisés pour répondre précisément aux questions. Et donc grâce à notre rapport, nous, on va les interroger, on va les voir plusieurs fois, on va aller de façon détaillée, mais de façon aussi progressive, adaptée à leur traumatisme. Et donc, on va produire un rapport qui va essayer de montrer que cette personne, en fait, n'a pas menti, mais que cette personne est simplement trop traumatisée pour avoir pu répondre à ce genre de questions.
Et à Esperanza, en soi, est-ce que vous avez un agenda d'activités à proposer pour les festivaliers?
Alors, tout à l'heure, on a parlé qu'on allait participer à un débat avec l'ASBL chef, parce qu'on a pas mal de demandes pour des personnes cuir qui ont été persécutées pour cette raison-là. Et donc, on va un peu expliquer quels sont les motifs de refus assez couramment retrouvés au CGRA par rapport à ces personnes. Donc, on va dire qu'ils ne sont pas homosexuels parce qu'ils ont eu un enfant, des choses comme ça. Ou parce que quand ils sont arrivés en Belgique, ils n'ont pas directement été à la Rainbow House et qui n'ont pas manifesté leur volonté de rencontrer d'autres personnes homosexuelles en Belgique. Enfin, ça, ce sont quelques motifs que j'ai déjà retrouvés. Et donc là, on va participer à ce débat-là. Alors, en fait, aussi, le modèle qu'on a pour examiner les gens, interroger et examiner les victimes de torture, c'est un modèle qui est très, très précis et qui est adaptable à n'importe quel type de violence. Et donc, on forme aussi des médecins pour les violences policières, pour les constats de violences policières, pour aller voir des personnes en centre fermé. Et donc, on peut aussi apporter notre aide et notre témoignage dans les débats ou dans les films qui concernent ce genre de problématiques.
Tu disais tout à l'heure que vous étiez assez connu dans le milieu. Moi, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là, on va dire dans les vides. Tous les jours. Et donc oui, en tout cas, je suis ravi de votre présence à Esperanza pour éclairer un peu sur la place publique, du moins de venir témoigner de ce genre de réalité qui existe toujours à l'heure actuelle. Je pense que c'est assez important. Et est-ce que tu sais si dans d'autres pays qui accueillent aussi quotidiennement des réfugiés, il y a les mêmes structures qui sont mises en place ou c'est quelque chose propre à chez nous?
Non, il y a des structures identiques. Donc aux Pays-Bas, il y a IMO, qui fait le même type de travail, mais qui a plus de moyens. Il y a en Grande-Bretagne la Medical Foundation. À Paris, à Bordeaux, il y a aussi des médecins qui font ce type de travail. On s'est déjà rencontrés à des congrès. Voilà, mais j'ai l'impression que la procédure d'asile est quand même moins difficile en Belgique et contient probablement encore actuellement, surtout en procédure francophone, parce qu'il y a une grosse différence entre la reconnaissance en procédure francophone et en procédure néerlandophone, on tient quand même pas mal compte de nos rapports. Donc, dans les statistiques qu'on a faites, on se rend quand même compte qu'il y a un gros pourcentage de gens qui sont passés par chez nous et qui, grâce à ce rapport, ont pu avoir le statut de réfugié.
Ok. Ben, en tout cas, je te remercie pour ce moment passé avec nous. Est-ce que tu nous quitterais avec un mot de la fin ou quel message veux-tu faire passer? Parce que nos auditeurs nous écoutent et Esperanza, c'est dans un petit temps. Quel message aimerais-tu faire passer?
Le message principal, c'est que si vous connaissez des jeunes médecins ou n'importe quel médecin, en fait, qui serait intéressé de nous rejoindre, qui viennent voir le stand, qui n'aient pas peur. Je sais que ce genre de travail peut faire peur et on leur expliquera dans les détails l'aide qu'ils peuvent nous apporter.
Et en attendant, ont-ils une plateforme sur laquelle aller pour se renseigner?
Notre site, Constat.
Constat.be.
Voilà, constat.be.
Merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous.
Et on se revoit donc du 26 au 29 juillet à Esperanza.